VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui, édition du vendredi 2 novembre 2018, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, le ministre de la Défense parle de campagne de déstabilisation contre son pays.
En Guinée, la gendarmerie a empêché hier plusieurs centaines d'opposantes de marcher à Conakry.
Amnesty International dénonce l'arrestation en Égypte d'au moins 19 avocats et défenseurs des droits de l'homme.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé la signature d'un décret sur l'immigration la semaine prochaine.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, le ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, a déclaré que l'extension des attaques dans les régions de l'Est et de l'Ouest a fini par convaincre les plus sceptiques que notre pays fait aujourd'hui face à une campagne de déstabilisation. Monsieur Bouda a tenu ses propos lors de la commémoration du 58e anniversaire des Forces armées nationales. Le point avec Morgane Guiriec.
Le bilan au cours de cette année 2018 est assez éloquent. De nombreux morts et blessés, des infrastructures économiques et sociales détruites, des populations déplacées et la paralysie de nombreuses activités économiques, a souligné le ministre, appelant à l'union de tous les fils et filles contre la menace terroriste. Le ministre de la Défense n'a pas précisé qui il voyait derrière cette campagne de déstabilisation. Mais le président burkinabé, Roch-Marc Christian Kabore, a plusieurs fois accusé les nostalgiques de l'ancien régime de Blaise Compaoré de vouloir déstabiliser le pays. Une thèse jugée peu crédible par les experts et les diplomates pour qui les attaques sont perpétrées par des groupes djihadistes. Selon un bilan officiel établi mi-septembre, ces attaques ont fait 118 morts, 70 civils et 48 membres des services de sécurité.
En Guinée, la gendarmerie a empêché hier plusieurs centaines d'opposantes de marcher à Conakry. Ces dernières ont voulu marcher d'une mosquée de la banlieue au ministère de la Sécurité pour réclamer justice pour leurs enfants tués, selon elles, pendant les manifestations réprimées par les forces de l'ordre. On pouvait lire sur leur pancarte « Avec 98 morts tués par les forces de l'ordre, Alpha Condé, président guinéen, doit aller à La Haye, siège de la Cour pénale internationale ». À la sortie de la mosquée, elles ont fait face à des femmes gendarmes non armées, mais qui ont formé un barrage pour les empêcher de rejoindre le ministère de la Sécurité.
La présidence congolaise est accusée dans une étude d'avoir une mainmise sur deux instituts chargés d'assurer la transparence du processus électoral en République démocratique du Congo à moins de 2 mois des scrutins cruciaux du 23 décembre censés organiser la succession du président Joseph Kabila. Cette étude a été publiée jeudi par le groupe d'études sur le Congo basé à l'université de New York. Selon elle, la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle sont contestés, leurs membres taxés de partialité. Réaction de Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du président Kabila. Toutes ces accusations gratuites visent à préparer le terrain à ceux qui veulent boycotter les élections. Il y a des actions coordonnées pour éviter que des élections se tiennent, a-t-il ajouté.
En Afrique du Sud, une source judiciaire a déclaré hier qu'une enquête sur l'assassinat de Patrick Karegeya, un ancien chef des services secrets rwandais, s'ouvrira en janvier. Monsieur Karegeya, qui vivait en exil en Afrique du Sud, avait été retrouvé étranglé dans un hôtel de luxe de Johannesburg en 2014. Il avait dirigé le renseignement extérieur rwandais pendant près d'une décennie avant de sérieux désaccords avec le président Paul Kagame. D'Afrique du Sud, Karegeya critiquait Monsieur Kagame, l'accusant d'être un dictateur et de faire assassiner ses opposants réfugiés à l'étranger.
En Égypte, au moins 19 avocats et défenseurs des droits de l'homme, 8 femmes et 11 hommes, ont été arrêtés, a indiqué jeudi Amnesty International. Des détails avec Nani Talani.
Parmi les personnes arrêtées figure Oda Abdelmonem, une avocate âgée de 60 ans, ancienne membre du Conseil national des droits humains. Les forces de sécurité ont saccagé son domicile avant de l'emmener vers une destination inconnue. Mohamed Abdou Orira, avocat lui aussi et époux d'Aïcha Kaira Al-Shater, a également été interpellé, de même que 2 autres hommes proches des frères musulmans. Selon l'avocat Abdelmonem Abdel Maksoud, deux des femmes arrêtées, Aïcha Kaira Al-Shater et l'avocate Oda Abdelmonem, sont actives dans le domaine de la défense des droits de l'homme. Auparavant, il avait fait état de l'arrestation jeudi de 8 femmes et 3 hommes proches des frères musulmans, dont la fille de Mohamed Kaira Al-Shater, l'un des chefs de la confrérie. Ces arrestations de défenseurs des droits humains ont poussé une importante ONG locale, la Commission égyptienne des droits et libertés, à suspendre ses activités, invoquant le climat hostile qui prévaut en Égypte aujourd'hui à l'égard de la société civile.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a de nouveau suscité des craintes au sujet des sans-papiers et promis la semaine prochaine un décret qui affectera sérieusement les demandeurs d'asile qui s'approcheront de la frontière sud des États-Unis. Parlant à la Maison-Blanche, M. Trump n'a pas spécifié les mesures qu'il compte proposer, se contentant de dire que ces derniers devront faire leur demande au point d'entrée légaux et qu'il veut accroître la détention des demandeurs d'asile. Le chef de l'exécutif américain a fait ses déclarations à 5 jours seulement des élections de mi-mandat qui portent sur le contrôle du Congrès et plusieurs postes de gouverneur.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré hier qu'il faudra encore quelques semaines avant que les États-Unis ne disposent de preuves suffisantes pour pouvoir prendre des sanctions contre les personnes responsables de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Ce critique du prince héritier Mohammed bin Salman a été tué dès qu'il est entré le mois dernier dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, selon un procureur turc. Monsieur Pompeo a ajouté que le président Trump a affirmé que nous allons demander des comptes aux personnes qui ont été impliquées dans la perpétration de ce crime ignoble.
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté hier une résolution non contraignante appelant à la levée de l'embargo américain contre Cuba. Les États-Unis ont pour leur part tenté en vain de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme dans l'île. Détail avec Irénée Herman Ungo.
La résolution a été approuvée par 189 pays. Comme en 2017, seuls les États-Unis et Israël se sont prononcés contre, tandis que l'Ukraine et la Moldavie n'ont pas participé au vote. La représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley, avait présenté cette fois 8 amendements à la résolution cubaine, une tentative de diriger l'attention vers le bilan de la Havane en matière de droits de l'homme. Ces amendements n'ont pas reçu le soutien espéré par Washington. Seuls leurs alliés israéliens et ukrainiens ont voté en leur faveur, rejoint par les îles Marshall pour un amendement. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a qualifié l'administration de Donald Trump de gouvernement de millionnaires imposant des politiques cruelles. C'est la 27e fois que l'Assemblée générale de l'ONU appelle ainsi à la levée de l'embargo économique et financier des États-Unis contre Cuba en place depuis 1962. La résolution présentée chaque année depuis 1992 n'est pas contraignante et n'a qu'une portée politique.
Le président Donald Trump a qualifié hier de très bonne sa conversation téléphonique avec son homologue chinois. Elle a porté, a dit M. Trump, sur le sujet épineux du commerce ainsi que sur la Corée du Nord. Pour rappel, Washington a engagé des discussions historiques avec Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Selon Chine Nouvelle, le président chinois Xi Jinping s'est dit de son côté très heureux de sa nouvelle conversation avec le président Trump, soulignant la grande importance qu'il accorde aux bonnes relations avec le président américain. Les États-Unis et la Chine se livrent une guerre commerciale sans merci à coups de taxes douanières depuis des mois, suscitant des inquiétudes pour l'économie mondiale.
Des centaines d'employés de Google à travers le monde ont observé jeudi, hier, un arrêt de travail pour protester contre la façon dont l'entreprise traite les cas de harcèlement sexuel. Des détails avec Jacques Aristide.
Des centaines de personnes ont quitté hier les bureaux de Google à Londres pour manifester leur mécontentement. Même scénario à Dublin et Singapour. Plus tard à New York, des centaines d'employés de Google se sont rassemblés dans un parc voisin. Une des manifestantes s'est adressée à la foule.
Cet arrêt de travail est le temps fort d'une semaine de colère et l'œuvre d'un millier de personnes. Nous sommes partis d'une situation de colère, mais pour moi, tout au moins, tout s'achève dans un moment d'inspiration.
La colère couvée depuis plusieurs mois et a explosé après les révélations du New York Times, selon lesquelles le géant de l'Internet avait discrètement versé des millions de dollars d'indemnité à des cadres congédiés après des accusations de harcèlement sexuel. Les organisateurs ont demandé à Alphabet, la société mère de Google, d'inclure un représentant des travailleurs à son conseil d'administration. Les employés ont également demandé à l'entreprise de réviser ses pratiques pour rendre plus équitable le traitement des plaintes de harcèlement sexuel. Les employés ont soulevé des idées constructives que la compagnie va transformer en action, a promis Sundar Pichai, PDG de Google.
C'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement ivoirien a mis en place hier un conseil EVA Palmier à huile, un nouvel organisme officiel destiné à réguler ces deux filières frappées par la chute des cours mondiaux. Ce conseil se résume à la régulation de ces filières pour qu'elles retrouvent la sérénité et se remettent sur le chemin du développement tout en privilégiant les intérêts des producteurs. La Côte d'Ivoire espère multiplier par 2,5 sa production de caoutchouc d'ici à 5 ans pour atteindre 2 millions de tonnes. C'est le premier producteur africain de caoutchouc et le 7e au plan mondial. Le Fonds monétaire international propose un nouveau déboursement de 2 milliards de dollars d'aide à l'Égypte après les progrès économiques constatés. Le versement, qui doit encore être approuvé par les instances dirigeantes de l'institution monétaire internationale, s'inscrit dans le cadre d'un programme de soutien de 12 milliards de dollars approuvé en novembre 2016. Enfin, les pays africains pourraient bénéficier de 9 milliards de dollars pour booster l'irrigation agricole. Cette aide viendrait de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et d'autres organisations. Cette manne financière, dont le versement pourrait débuter dès 2019, devrait aider notamment les gouvernements à cartographier les systèmes aquifères et évaluer l'état de leurs ressources en eau.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Al Ahly et l'Espérance s'affrontent ce soir en finale aller de la Ligue des Champions.
Les Égyptiens d'Al Ahly et les Tunisiens de l'Espérance Sportive ont publié hier leur liste de joueurs convoqués pour la rencontre. De retour de blessure, le gardien Mohamed El Chenaoui et le milieu offensif Islam Mouareb sont présents côté Kairot, à l'inverse d'Ali Maloul qui ne rejouera plus cette année. En face, le latéral gauche de l'Espérance Sportive de Tunis, Aymen Ben Mohamed, reste incertain pour cette rencontre. Les deux clubs se sont affrontés une seule fois en finale de Ligue des Champions. C'était en 2012 et on se rappelle, Al Ahly l'avait emporté 1-1 à l'aller, 1-2 au retour. Coup d'envoi ce soir à 19h, temps universel à Alexandrie en Égypte donc. Le match retour de cette finale aura lieu le 9 novembre à Tunis.
Bounassar a fait son choix.
Après le Classico contre le Paris Saint-Germain, le défenseur de l'Olympique de Marseille a réagi sur son avenir international. Au micro de nos confrères de Tout Foot, j'ai fait un choix, je fais en sorte de me donner toutes les chances pour aller en équipe de France. Ça va faire des déçus, mais c'est le football. L'équipe de France reste une grande nation, d'autant plus qu'elle est championne du monde. J'ai envie de me battre pour y être un jour, a confié ça. Passé par le FC Metz, le joueur qui possède des origines guinéennes et sénégalaises fait l'objet de convoitises de la part des deux fédérations africaines.
En Italie, Naples veut se rapprocher de la tête avant d'affronter le PSG.
Oui, Naples veut enfoncer encore plus Empoli dans le match avancé de la 11e journée de Serie A aujourd'hui. Pour se rapprocher de la Juventus, actuel leader avant l'affiche en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Avec 22 points en 10 matchs, Naples est désormais 3e à 6 points derrière la Juventus et à égalité de points avec l'Inter Milan, 2e grâce à la différence de but.
La Juventus a mis fin au contrat de Giuseppe Marotta.
La vieille dame a officialisé le départ de son administrateur délégué Marotta et du directeur financier Aldo Mazzia. Sous Murata, la Juventus a remporté 7 titres d'affilée de champion d'Italie, 4 coupes nationales et a disputé 2 finales de Ligue des Champions. Selon les médias, il serait en contact pour prendre un poste de dirigeant à l'Inter Milan. NBA, pour finir, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Oklahoma City bat Charlotte 111 à 107. Victoire de Denver sur Cleveland 110 à 91. Philadelphie bat LA Clippers 122 à 113. Atlanta écrasé par Sacramento Sacramento 146-115 et Milwaukee enregistre sa première défaite de la saison face à Boston 117-113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous vous le disions hier, en Guinée, les victimes survivantes d'un massacre de 6 villageois en 2012 ont porté plainte dans leur pays contre une société minière qu'elles accusent de complicité, puis devant la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État guinéen. Et l'opposition dit de son côté subir des pressions des autorités de Conakry qui l'empêchent de s'exprimer librement conformément à la Constitution. Des précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Rue déserte et fortement militarisée face à une poignée de membres de l'opposition maintenus dans leur position par les forces de l'ordre. Selou Dalein Diallo, leader de l'opposition guinéenne, dénonce au même titre que des organisations de la société civile l'abus des autorités de Conakry contre la liberté des personnes.
Nos libertés de mouvement, je suis député de la République, je suis chef de file de l'opposition, ma liberté de mouvement est complètement bridée aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de sortir. Les manifestations sont autorisées par la Constitution de la République. Mais Alpha, il s'en fout de la Constitution. Il s'en fout des lois. Il s'en fout des accords politiques. Il s'en fout de la vérité. Il est en train de préparer son troisième mandat. Et il a dit, c'est pas par le dialogue, c'est pas par les accords qu'il va y arriver, c'est par la force.
Deux morts et au moins 15 blessés, c'est le bilan de cette répression policière qui avait paralysé la capitale guinéenne en début de semaine, dénonce Mariama Baldé, une habitante de Conakry.
C'est vraiment déplorable parce que ça fait pratiquement combien de temps aujourd'hui c'est ville morte, demain c'est la marche, les enfants ne vont pas à l'école et les activités sont vraiment en baisse. Et avec ça, les institutions ne sont pas sûres. Et ils ne sont même pas rassurés d'investir en Guinée. Là, par exemple, moi j'ai été en ville hier, aujourd'hui encore je suis passée. Mais à partir de Dixine, il faut reconnaître que la ville est totalement morte parce que toutes les boutiques sont fermées. Et arrivé même au marché, il n'y a rien, tout est fermé. On est vraiment incapable même de s'enquérir, d'avoir maintenant même de quoi à manger.
Le 4 août 2012, les forces de sécurité et de défense guinéennes avaient tiré sur des villageois qui protestaient depuis plusieurs jours contre la politique de recrutement de la société minière Val-BSGR. Bilan 6 morts et plusieurs blessés, des habitations incendiées. Plusieurs personnes ont été arrêtées et torturées selon l'ONG Les Mêmes Droits pour Tous. Elle a récemment déposé une plainte devant le procureur de Nzérékoré au nom des victimes contre la société minière pour sa responsabilité présumée dans les assassinats, arrestations et détentions arbitraires, torture, destruction des biens privés, pour ne citer que ces accusations.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Retour sur la transparence dans l'attribution des contrats dans les industries extractives. C'est un sujet qui fait débat dans plusieurs pays africains. Lors d'une conférence internationale à Dakar mardi, les présidents sénégalais Macky Sall et Sierra Leone Julius Maada Bio ont appelé à la publication des noms des réels propriétaires des sociétés minières pour, disent-ils, plus de transparence et pour éviter la corruption et l'évasion fiscale. Pour une réaction, Abdourahmane Dia a joint à Dakar le secrétaire général de l'une des principales centrales syndicales, la CNTS-FC, Cheikh Diop.
C'est même une revendication, une exigence des populations et de la société civile. La non-transparence de la propriété effective peut entraîner les fléaux que vous venez d'énumérer. La corruption, les transactions illégales, l'évasion fiscale et toutes sortes de dérives. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut effectivement la transparence dans la propriété effective des industries extractives et minières.
Mais les gouvernements ont quand même les moyens de savoir qui sont les vrais propriétaires, ou pourquoi est-ce qu'ils ne font pas voter des lois justement pour exiger que tous les noms soient connus, ou bien c'est un peu plus compliqué que cela?
Exactement, on se réjouit d'entendre le président Sall dire qu'il va introduire un projet de loi d'ici la fin décembre pour qu'effectivement les propriétaires de toutes les sociétés exerçant au Sénégal dans ce domaine puissent être connus et découverts par tous. Ceci est une excellente chose. Je pense que c'est exactement ce que les populations attendent pour éviter justement qu'il y ait des encagoulés dans le secteur pétrolier et minier.
Également, il y a cette question de réforme des codes miniers dans un souci de transparence, également pour augmenter la part des États dans les revenus des produits minéraux.
Oui, le nouveau code pétrolier n'est pas encore révélé au public. Mais nous pensons que ceci devait comporter des clauses qui renforcent les intérêts du Sénégal dans le domaine pétrolier et même minier. Aujourd'hui, des contrats sont déjà signés. Le président a promis de publier ces contrats. Mais ce que l'on peut retenir, tant que le système contractuel dans le secteur minier n'est pas revu fondamentalement, les pays africains, en général, les pays qui abritent des sites miniers sont toujours lésés.
Justement, c'est vrai que le nouveau code au Sénégal n'est pas rendu public pour l'instant. Est-ce qu'il y a des clauses qui on peut exiger à ce que ces sociétés-là puissent redistribuer une partie des revenus aux populations locales?
Oui, pour ce qu'on en sait, il y aura certainement une clause qui tienne compte de ce qu'on appelle les nouveaux droits citoyens pour les populations qui abritent les sites miniers. Mais il y a également une révision du partage dans le futur, que le partage dans l'exploitation, quand on entrera en plein dans l'exploitation pétrolière, que ce partage-là soit revu et que ce partage-là puisse s'opérer avec beaucoup plus d'avantages pour le Sénégal.
Le syndicaliste sénégalais Cheikh Diop.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La France avait enrôlé environ 600 000 soldats de ses colonies pour participer à la Première Guerre mondiale. Abdoulaye Ndiaye, un tireur d'élite sénégalais, fait partie de cette vague de soldats africains qui ont pris part aux batailles les plus meurtrières de cette grande guerre. L'histoire d'Abdoulaye Ndiaye avec Irénée Herman Ungo.
Village de Tiowor dans le nord du Sénégal. C'est dans cette case que le dernier soldat sénégalais ayant survécu à la Première Guerre mondiale a vécu ses dernières années. Cheikh Diop, le neveu de Abdoulaye Ndiaye, raconte.
Il est parti au front dès 1914. Il raconte son voyage de Dakar où ils ont reçu une instruction militaire sommaire au camp de Tcharoï. C'est là qu'ils ont reçu les premières instructions sommaires militaires pour quelqu'un tiré de sa brousse et qui va être soldat.
Abdoulaye n'avait que 20 ans quand il s'est retrouvé sur les champs de bataille où il a été grièvement blessé à la tête. À la fin de la guerre, il est retourné au Sénégal avec une modeste pension et un laissez-passer de chemin de fer français qu'il n'a jamais utilisé avant sa mort, explique Cheikh Diop.
Ce que je sais, c'est qu'il était honoré d'avoir accompli une tâche, c'est-à-dire combattre sur le terrain militaire avec tous les rigueurs de la guerre, la mort, etc. De l'avoir fait pour la France, mais aussi de l'avoir fait pour honorer son père et ses frères.
Abdoulaye a vécu jusqu'à l'âge de 104 ans. Il est mort en 1998, la veille du jour où il devait recevoir la médaille de la Légion d'honneur, une reconnaissance qui lui a été attribuée à titre posthume. Il a été très généreux selon son petit-fils Boubacar Ndiaye.
Il partageait tout ce qu'il gagnait. C'est pourquoi il n'a pas laissé beaucoup de choses. Lorsqu'il recevait la pension de retraite, il la partageait dans la même matinée avec les autres.
Avant sa mort, Abdoulaye avait demandé à la France d'œuvrer pour le développement de son village. Cette route financée par Paris a été inaugurée en 2002. Aujourd'hui, la famille de Ndiaye veut seulement s'assurer que cet héritage soit préservé.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Et Et si aux États-Unis, l'immigration est un des sujets phares de cette campagne de mi-mandat, une caravane composée de milliers de Centra-Américains se dirige vers la frontière américaine. Avant cela, vous vous rappelez bien que de ces 700 000 bénéficiaires du programme DACA sous l'ère Obama, qui permettait à des jeunes sans papier de vivre et de travailler légalement aux États-Unis. Eh bien, ils ne sont plus au devant de l'actualité depuis quelque temps, mais ils sont bien là et ils comptent jouer leur partition dans ces élections cruciales. Reportage de Ramon Taylor, repris ici par Abdourahman Dia.
Julian Ulises Juarez est venu aux États-Unis à l'âge de 10 ans en provenance du Mexique. Grâce à une bourse, il va à l'université et devient un reporter télé. Et en 2017, il remporte un trophée des Emmy.
I am actually undocumented. I am a dreamer. I have DACA. And this is very special because of that.
Lorsque j'ai eu mon trophée, je voulais que cela fasse partie de mon discours. Je voulais être devant toutes ces personnes, dont beaucoup travaillent pour des chaînes anglophones, pour leur montrer qui je suis. Voilà ce que DACA a rendu possible.
Depuis 2012, lorsque l'ancien président Obama avait annoncé le programme DACA, 700 000 sans-papiers amenés aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants ont obtenu le droit de travailler et de vivre ici, grâce à une autorisation de travail valable pour 2 ans renouvelable. Le président Trump a annoncé en 2017 la fin de ce programme, renvoyant la balle au Congrès pour trouver une solution permanente. Plus d'un an après, et à quelques jours des élections de mi-mandat, les Dreamers comme Juarez attendent toujours. D'autres controverses comme le mur à la frontière avec le Mexique ou la séparation des familles ont éclipsé la situation des Dreamers.
Il y a toujours quelque chose qui vient pour occuper la scène. Et franchement, ils nous oublient. Ils nous oublient parce que c'est dans les circuits judiciaires et ils disent que ça va s'arranger ou qu'ils peuvent postuler encore et qu'au moins leur documents peuvent être renouvelés en attendant, donc ça va. Et c'est pour cela que rien ne se fait.
Pour les 13 000 bénéficiaires du DACA dans le Nevada, les élections de 2018 pourraient aboutir à une nouvelle déception. Mais au moins, c'est une nouvelle occasion de se faire entendre. Les 29 % de la population latino dans cet État sont attentifs.
La discussion, c'est ma famille est attaquée, mon voisin est attaqué, mes amis sont attaqués. Et peut-être que je ne suis pas touchée personnellement, mais je me soucie de ces personnes car elles font partie de ma vie.
Même si les Dreamers n'ont pas le droit de voter, certains d'entre eux se disent qu'ils n'ont rien à perdre en galvanisant les électeurs.
Ma génération ne s'intéressait pas à la politique et on se disait que notre vote ne comptait pas. Donc je mets la pression sur mes amis, je leur demande de me rejoindre dans cette aventure pour essayer de changer les esprits.
Quelle que soit l'issue de ces élections, ces jeunes Dreamers espèrent que leur statut sera au cœur des priorités de la prochaine législature.
Si quiere yo le ayudo a llenarlo. Yo tengo una de ellas. Pero ya la mandó por correo.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du VIH-Sida dans les prisons.
Privés de leur liberté, obligés d'entretenir clandestinement les relations sexuelles et ayant un accès limité aux services de soins de santé, les prisonniers constituent un groupe très vulnérable.
Pour en parler, nous recevrons Daniel Safou, ancien détenu dans une prison congolaise. Il nous racontera ce qu'il a constaté pendant sa détention.
Nous écouterons aussi le témoignage de Yves Obotela, un responsable du programme congolais de lutte contre le sida. Il nous parlera de quelques initiatives prises par le gouvernement en faveur des prisonniers.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. participer en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.